et Audrey.
En complément du top de sport de notre ami Alex Laramé, il y a 20 ans, jour pour jour, le Canadien effectuait le pire échange de toute son histoire.
Franchement.
Un échange non seulement inter-équipe, mais un échange inter-ligue.
Inter-sport même.
Ouais, c'est l'échange de Youpi. Il y a 20 ans, jour pour jour, le Canadien de Montréal faisait l'acquisition de Youpi contre plus rien pantoute. En fait, Youpi est devenue la première mascotte à changer de ligue professionnelle en Amérique. L'ancienne mascotte des Expos, qui était devenue orpheline,
ouais,
est devenue la mascotte du Canadien. Puis malgré le fait que son corps jaune-orange ne fit pas pantoute avec les couleurs du tricolore, on dirait qu'on a fini par...
On l'a adopté.
Par s'habituer, mais au début, on voulait pas. Hein.
Elle a été la mascotte officielle des Expos de Montréal. De quelle année à quelle année?
Fin des années 70.
79, effectivement.
Ouais.
Jusqu'à, bien sûr, 2004.
Jusqu'à la fin 2004, exact.
Puis, oui, effectivement, quand elle a enfilé pour la première fois le chandail rouge, disons que le rouge et l'orange ne fitaient pas, mais actuellement, toutes les couleurs fitent ensemble d'une manière ou d'une autre, selon tout. Tiens, fait que je me dis qu'on s'est habitué.
Il a réussi à faire pogner les nerfs à une couple de vieux gérants en bédaine de baseball au cours de sa longue carrière. Puis ben là, c'est ça. Maintenant, il fait partie du paysage, veux pas. Puis,
y a-t-il des preuves que Gritty, c'était le petit frère de Youpi, mais qui était sur le crack?
Oui, qui a mal viré. Ouais, oh, oui, absolument. C'est un enfant illégitime, je pense. Hey, dans la circulation, Audrey?
Quelques affaires à vous mentionner. Commencez par revenir sur ce qui se passe sur la 138 boulevard Sainte-Anne. Deux voies de bloquées à la hauteur de la rue Dix, c'est toujours d'actualité. Si je regarde ce qui se passe sinon, sur la capitale direction Est entre Henri IV et Laurentienne, toujours difficile de circuler. Direction Ouest, c'est hauteur Laurentienne. Reste quelques ralentissements, là, mais c'est quand même assez dégagé. Robert Bourassa, direction Nord, hauteur Charret, toujours aussi difficile. Si vous êtes sur Henri IV Nord, ça se passe entre Wilfrid Amel et la capitale. Direction Sud, ça se passe entre, je vous dirais, vers en or et les ponts. Duplessis Sud entre Chemin Sainte-Foy et Pompierre-la-Porte. Sinon, on traverse sur la rive sud, c'est la 20 direction ouest entre Monseigneur Bourget et Taniata. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 texto. Qu'est-ce qu'il y a, Denis?
Il y a des auditeurs très matures qui voulaient savoir si tu avais des photos de l'accident sur la rue Dick.
Une dick pic.
Alex Colin.
Des dick pics, oui, voilà. C'est pas moi, c'est Oli. Merci.
Il pitch en dessous
de ben oui, oh, absolument. J'en porte beaucoup aujourd'hui, mais celle-là, je veux pas en porter. 418-971-1021, que ce soit pour des blagues de mauvais goût ou encore pour nous signaler quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs. Modification de règlement municipal du côté de l'Hôtel de Ville de Québec qui va permettre aux enfants de faire du bruit à leur école.
Oui, mais pas à ce moment-ci, c'est une motion qui était déposée par le maire Bruno Marchand. Il l'avait annoncé au lendemain du référendum qui avait été perdu par l'Académie Saint-Louis alors qu'on essaie de pouvoir faire changer la réglementation qui fait que c'est la seule école qui ne peut utiliser son terrain de sport avec amplificateur, musique, encouragement, etc., etc.
Ils ont été brillants en fin de semaine, par exemple?
En fin de semaine, ils avaient demandé un permis de manifestation pour être en mesure de tenir leur match. Je pense que le match était samedi. Ça s'est somme toute tout à fait bien déroulé.
Fait qu'ils ont fait du bruit comme d'habitude?
Oui. Fait que vers 16h et des poussières, c'est là que ça a été déposé, cet avis de motion-là. Puis le maire Marchand, sur ses médias sociaux, a mentionné « Le signal que nous envoyons est très clair. Dès le 1er octobre prochain, nous allons modifier le règlement de la ville et assujettir, pardon, tous les terrains sportifs des écoles aux mêmes règles, notamment sur le bruit. Nous allons offrir une solution permanente à une situation irrégulière. Je le répète, les enfants vont continuer de jouer. On bâtit la ville pour l'avenir. » La motion qui a été appuyée par presque la totalité du conseil municipal.
Presque?
La seule personne qui ne l'a pas appliquée, même si elle trouve absurde l'interdiction du bruit, puis tu vois, son point n'est pas fou, là, c'est Jackie Smith, parce qu'elle crée un précédent où le résultat d'un référendum est écarté. Ça, ça a été soulevé à quelques reprises parce qu'effectivement, tu tiens un référendum, tu n'as pas voulu agir auparavant, mais tu dis, bien, tant pis pour le référendum, même si c'était pas représentatif. Disons que ça envoyait un drôle de message.
En même temps, les yeux fermés, tu m'aurais demandé, il y a une personne qui a voté à l'écart des autres, c'est qui? Sur tous les dossiers, je te réponds tout le temps, Mme,
ouais,
Smith, puis j'ai des bonnes chances de gagner.
Inconséquente.
Ouais.
Inconséquente, puis tu sais, c'est quand même une voix qu'on avait entendue par rapport à ça, par rapport au principe de ne pas respecter un référendum. En parallèle, le maire de Québec a aussi répondu aux voisins, puisque le lendemain de ce référendum-là, il y a la fameuse lettre qui était parue dans les médias. On disait, hey, on est prêt à discuter, hein, pour trouver des modalités. Il a fait, non, c'est trop tard. C'était avant ça qu'il fallait trouver une solution. Ils ont eu leur chance. Il y a eu des négociations qui ont été faites, notamment avec celle qui s'occupe du secteur. puis avec l'école. À un moment donné, ils se sont retirés, ils ont dit « on veut un référendum ». La réponse maintenant, c'est « on harmonise ». Donc, il y aura une consultation publique le 26 septembre prochain parce que ça touche l'ensemble, dans le fond, de la ville de Québec. Puis le vote pour l'adoption officielle, lui, va se tenir au prochain conseil municipal le 1er octobre prochain pour une entrée en vigueur le 2.
On retourne sur les routes, Audrey?
Oui, bien peut-être vous rappeler ce qui se passe sur le boulevard Sainte-Anne où il y a deux voies de bloquées à la hauteur de la rue Dick. Là. On a quelques détails, évidemment, sans confirmation, là, mais ce qu'on comprend, c'est que ce serait un accident de moto avec, avec quelqu'un de fortement blessé. Là. Fait qu'on en a pour un bout dans ce coin-là, malheureusement.
La majorité des autobus Lyon électriques devraient revenir sur les routes à partir de jeudi. Ce serait 75 % des 1200 véhicules qui seraient même là dès mercredi matin.
J'allais dire que c'est rassurant. Pas vraiment. C'est soulageant, mettons. Ça va régler des problèmes à court terme pour les parents.
La nouvelle ministre racontait que, entre autres... C'est Mme Lebel qui disait ça. Le système au diesel qui se retrouve dans les autobus Lyon électrique pour le chauffage se retrouve aussi dans d'autres autobus. Fait que
ouais.
Si on commence ce jeu-là, ça se peut que ça soit compliqué dans les prochaines semaines.
S'il y a une chose que j'ai compris de Lyon électrique, là, c'est qu'ils sont même pas capables de poser les roues, ces autobus, là, comme c'est
peut-être
là.
Peut-être que l'installation était so-so.
C'est peut-être pas le système en tant que tel, comme la façon qui a été installée. 17h13.
Hey, kids! Vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Leblond.
Alex Leblond, planificateur financier, c'est ton tour, mon chanceux.
Yes, sir.
Tu veux parler d'une nouvelle tendance ou c'est peut-être une nouvelle excuse pour les gens qui ne veulent pas se commettre sur la chose? Mais pas faire d'enfants parce qu'on n'arrivera pas avec des enfants.
Ouais, exactement. D'un point de vue financier, là, il y a un sondage récemment, puis c'est une nouvelle tendance qui a été décelée. Le sondage est fait par BMO, là, puis ça dit essentiellement que tu as 33% des gens âgés de 15 à 49 ans, fait que vois ça comme la jeune génération, qui eux autres n'ont pas l'intention d'avoir d'enfants du tout.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un sommet mondial. Dans la mesure où il n'y a pas nulle part au monde où on a une proportion aussi grande que ça de jeunes qui disent ne pas vouloir d'enfants, on a déjà présentement le taux de fécondité parmi les plus bas sur la planète. Là. Le Canada, on est 182e sur 214.
C'est bravo.
En termes de combien d'enfants on fait. Là. Puis ce que ça nous dit, c'est que ça s'en va en descendant. Fait que je me suis dit, on pouvait partir de ça pour regarder c'est quoi les raisons qui sont établies là-dedans, puis ça part d'où.
Est-ce que ce pourcentage-là inclut aussi les gens qui ont choisi de ne pas avoir plus d'enfants pour des raisons financières?
Non, là, on parle de... Okay. On part from
d'en
scratch,
avoir
là.
Ou pas, là.
Exactement.
Parce que, tu sais, le fameux principe de dire, ben moi, je vois que financièrement, ça va être difficile, je veux pouvoir offrir le meilleur à mon enfant, on va arrêter à un. On l'entend quand même pas mal. Puis des gens qui auraient voulu des familles de six, puis finalement, à deux, on va s'arranger avec ça, ce qu'il y en a aussi. Là.
Oui, puis ça a été étudié. T'sais, en montant la recherche pour la chronique, je l'ai quand même vu à quelques endroits. Là. T'as les deux, là. Mais
de pas pantoute, c'est quand même une autre marge. Là.
C'est une autre marge, effectivement.
Après deux, c'est ma santé mentale, moi, qui est en jeu. Fait que, tu sais, il a fallu... je sais pas si c'est dans le sondage, parce que t'as quand même...
C'est aujourd'hui que t'as sombré, Denis?
Oui, absolument. Ça finit par tomber, hein, d'une façon ou d'une autre. Alex, il y a quand même des chiffres supplémentaires qui sont intéressants dans ce sondage-là.
Oui, bien, à base, là, t'sais, dans le 33% des gens qui disent ne pas en vouloir, là, t'sais, sont allés extrapoler ça, puis à base, là, toutes les personnes à qui ils ont parlé, t'as 70% des gens de la génération Y et de la génération Z, fait que les jeunes, là, essentiellement, qui disent, eux autres, on craint que... 70% disent craignent qu'un enfant nuise à leur sécurité financière.
OK, fait c'est pas l'inverse. C'est pas de dire je pense que je pourrais pas subvenir à un enfant. J'ai peur que ça nuise à moi.
Ça nuise à mon Netflix.
C'est twisté d'une drôle de manière.
Oui, mais ouais. Quand même, ça le mérite d'être clair. Hein?
Puis après ça, tu sais, justement, il y a un autre aspect au sondage qui est, OK, parmi les gens qui en ont déjà, puis c'est là où justement ton point, Véro, est abordé, là, t'as 48% des parents qui ont été sondés là-dedans qui disent que d'avoir un enfant a compromis leur sécurité financière. Fait qu'essentiellement qu'ils n'étaient pas dans le trouble, puis là, ils sont rendus dans le trouble.
Mais ça, c'est pas un peu inévitable?
Ben, ça dépend toujours de ce que tu entends par sécurité financière. Il y en a pour qui j'ai besoin, je te caricature, là, mais j'ai besoin de 10 000 dans mon compte chèque pour me sentir sécuritaire. Je suis à 8 000, je suis stressé. T'es-tu vraiment dans une insécurité financière? Pas vraiment. Puis il y en a qui okay, sont dans le rouge pour de vrai.
Mais il y a le stress des responsabilités aussi. Je vois que 48 % se sentent régulièrement dépassés par les responsabilités financières de leur famille. T'sais, moi, personnellement, le fait qu'il n'y a pas juste moi que ça implique mes finances, l'argent que je gagne, l'argent que je dépense, l'argent que j'investis, ça me stresse constamment. Ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai des problèmes financiers. C'est juste que le poids des responsabilités parce que tu n'es pas tout seul devient pas mal plus grand, puis ton stress, ben là, tu te dis, si je prends des mauvaises décisions, ou si pour une raison ou pour une autre, j'arrive plus, ben là, il y a des gens qui vont subir les conséquences de ça, puis qui vont dépendre de moi, exact.
Puis l'affaire avec ça, si on le voit dans les chiffres, puis je le vois aussi quand je parle avec du monde, là, dans mon bureau, là, t'sais, mettons, une fois que tu fais fi des dépenses de départ, là, que souvent tu te fais, t'sais, oui, ça coûte cher, mais des fois, tu te fais donner des affaires, puis... Souvent, les dépenses vont augmenter au fur et à mesure que l'âge avance.
Ben oui.
Parce qu'il y a des poupons de 6 mois en sport études de hockey, il n'y en a pas beaucoup. Fait que, tu sais, non, mais tu sais, souvent.
Un pourcentage est faible.
Ouais. Quoique, il y en a quelques-uns qui, s'ils pourraient les faire commencer à cet âge-là, ils le feraient. Ah, là. Faut bien qu'ils gagnent la Coupe Stanley que papa n'a jamais été capable de gagner. Hein.
Ouais, exact. Mais tu sais, l'idée, c'est souvent le stress financier est déjà présent dans les premières années. Puis là, on voit les dépenses qui vont s'accumuler dans le futur. On veut jamais devoir dire non à une demande ou à un rêve pour des raisons financières. C'est comme
puis là, tu rentres là-dedans des broches, parce que là, ils se sont fait dire que, mon Dieu, ça prenait ça à tout prix, puis là, des lunettes, puis c'est pas tout le monde qui est assuré, c'est pas tout le monde qui a ces capacités-là, mais ils veulent le meilleur pour leur enfant. Là.
Ouais. Quand j'étais petit, moi, mon grand-père, lui, il avait eu dans le temps des écuries, des chevaux. Puis quand on allait voir mes grands-parents, il montrait des photos de cheval, puis il montrait des chevaux en bois. Puis là, mon père était comme, qu'est-ce que tu fais là, toi, tu vas
pas besoin chez mon fils.
Puis là, mes deux sœurs, ils ont fait de l'équitation.
Oh,
ça a dévasté
là
complètement.
Ça a dévasté la santé financière de la famille.
Comme, peux-tu leur parler de jouer au billes?
Quelque chose d'abordable.
Soccer, pas beaucoup d'équipement au soccer. Y a-tu un point de base qui se vérifie et qui se confirme? Ça coûte cher des enfants? Oui, ça coûte combien un enfant? À base.
Il y a des études qui ont été faites par le gouvernement fédéral. Puis là, c'est sûr que, reprenons notre même exemple, il y a un enfant qui fait de l'équitation versus un enfant qui, lui, il lit, il aime plus les livres, puis tout ça, c'est pas la même facture. T'sais. Les statistiques, là, essentiellement, là, le gouvernement fédéral a fait une étude auprès des familles à plus faible revenu. Il a fait une étude classe moyenne, puis il a fait une étude haute classe moyenne et famille fortunée.
Aisée, là, ouais.
Puis il a fait une moyenne de combien ça coûte. Fait que la moyenne là, de 0 à 17 ans, on enlève tout ce qui est 18 et plus parce que rendu là, c'est vraiment du cas par cas. Là. Il y en a qui restent jusqu'à 25, il y en a qui partent tout de suite. Ça dépend vraiment. La moyenne, ils ont établi ça à 293 000 $ par enfant.
Sur 17 ans?
Sur 17. De 0 à 17. Fait que okay. Ça inclut tout. Là.
Okay.
Puis il y a même un breakdown. Là. Là-dedans, tu as 29 % qui est de l'hébergement.
Ça, c'est stable d'une année à l'autre, j'imagine.
Ouais, mais ouais.
À moins que tu changes de maison, mais...
Ben, oui, mais tes coûts fixes aussi vont augmenter dans mesure où ton électricité, t'es dans un endroit plus grand. C'est rare que tu vas rester dans un 3,5 ou dans un 4,5. 20% des transports, fait que même principe, ton deux places, il fait plus, ça te prend plus d'espace, ça te prend plus de capacité de chargement. Puis bon, alimentation, service de garde, etc. Là,
ouais, mais... Alimentation est à 17%, là, mais j'aimerais ajouter un bémol. Il y en a un qui commence l'adolescence chez nous, ça monte à 25% très rapidement.
C'est
ça,
tu pars de zéro à l'allaitement, puis c'est le reste qui balance.
Ça, c'est des dépenses directes. Puis un aspect qui est vraiment moins abordé puis qui est non négligeable. Puis il y avait un article dans Le Devoir, je lis pas tant Le Devoir, là, je suis tombé dessus.
Non, 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 ça paraît toujours bien. Ouais. Je lisais justement un article dans Le Devoir, mon cher.
Ouais, il y a quelques semaines, il y avait un article par rapport à ça. Puis un aspect, tu sais, parce que le 293 000 piastres, c'est du vrai, c'est de l'argent qui sort du compte chèque. C'est un coût direct qu'on est capable d'identifier. Il y a quelque chose qui est vrai pour oui, pour des hommes, mais majoritairement pour des femmes, c'est qu'il y a un recul salarial aussi qui est lié au fait d'avoir un ou des enfants. Les statistiques, là, généralement, c'est des moyennes, là, ça ne s'applique pas à tout le monde, là, mais à la naissance du premier enfant, on dit que le salaire des Québécois, ça c'est des statistiques québécoises, là, chute de 40%. Contrairement à celles qui ont repoussé le projet d'une couple d'années. Hey. Puis ensuite de ça, cet écart-là augmente selon le nombre d'enfants. Puis à l'opposé, tu vois, le salaire des nouveaux pères ne diminue pas. Puis eux autres, ils n'ont pas vraiment cet aspect-là. Fait que c'est un coût, là. Tu sais, ce que le 20 000, le 25 000, le 30 000 auquel tu renonces, bien, c'est 30 000 indexé à l'inflation que tu aurais pu placer. Fait que tu as un coût de renonciation qui est quand même énorme, qui n'est pas un coût direct qu'on peut chiffrer, mais qui existe dans la majorité des cas, là.
Mais en même temps, si tu m'avais demandé de guesser combien ça coûte un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, j'aurais probablement guessé pas mal plus haut que 293 000 piastres.
Pour vrai, c'est la moyenne.
Oui, je comprends que c'est la moyenne, mais je pense que toute proportion gardée, on exagère peut-être un peu sur un enfant. Moi, j'en aurais pas parce que justement, ça va me coûter les yeux de la tête, puis ainsi de suite.
Ben moi, je me suis déjà posé la question, là, mettons que je veux une retraite, là, puis que je veux être capable de survivre. Non, mais sérieux. Tu sais, dans le sens que c'est beaucoup de sous, là. Faut que tu fasses ton budget en conséquence, là. Il y en a beaucoup qui ont de la misère à y arriver, pas de kids.
Ouais, mais en même temps, on fait tous des choix, puis ça va aussi avec le rythme de vie. Je veux dire, moi, quand j'étais célibataire, puis que j'avais pas d'enfant, j'allais voir plein de shows. Je faisais des voyages, je faisais la vie de Max Larouche. C'est pas compliqué, là. Là, c'est des affaires que je fais plus. Ben, premièrement, parce que j'ai des responsabilités parentales à la maison. Ça va un peu de soi. Deuxièmement, parce que j'ai vieilli un peu. Puis troisièmement, ben, pour des raisons strictement économiques, tu peux pas tout garder. Puis il y a peut-être de ça un peu là-dedans aussi dans le raisonnement de dire, moi, je veux garder mon rythme de vie. Je veux garder les affaires que je fais qui me font plaisir. Puis si j'ai des enfants, ben, je pourrais plus parce que j'aurais plus les moyens financiers.
Ben c'est clair. Puis l'article, là, ben, l'étude parle de... Il y a comme une espèce de pression sociale de, tu sais, dans tes premières années, mettons, de où tu travailles,
ouais.
Ben tu t'achètes des affaires, puis tu es habitué à vivre un certain rythme. Puis là, le fait d'ajouter un enfant dans l'équation fait en sorte que tu pourras plus avoir ce rythme-là. Tu n'auras nécessairement pas le choix de couper sur certains trucs. Puis des fois, le fait de couper sur certains trucs, c'est-tu quelque chose de générationnel? Les statistiques disent que oui. Okay. On dirait qu'en 82, ça ne dérangeait pas grand monde. Mm-hmm. En 2025, ça dérange le monde un petit peu plus. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi qui est établi là-dedans. Okay. Là. Tu vois, même dans les gens qui sont parents, là, mettons ceux qui ont eu des enfants, tu as 76% qui disent... Puis ça, c'est la proportion qu'ils l'admettent. Là, fait qu'en réalité, c'est peut-être un petit peu plus. Tu as 76% du monde qui disent... subir une pression pour suivre le rythme des autres familles en dépensant plus qu'ils devraient.
Oui. Puis là, on parle pas juste des parties de fête, mais c'est un gros facteur.
Ben,
je trouve tellement c'est un bel exemple.
C'est un reflet de tout le reste.
Ben, c'est parce que moi, je faisais partie de ces parents-là qui disaient, hey, moi, les fêtes au laser tag puis des affaires de trampoline, je veux dire, on fera pas ça puis on tombera pas là-dedans. Mais tes gars sont invités à une fête où ce qu'ils vont au laser tag, puis l'autre fête est aux galeries de la capitale.
Tu fais pas de savoir.
Tu devineras jamais ce qu'ils veulent pour leur anniversaire. Ouais, ben la même chose. Fait que t'es comme entraîné malgré toi dans la roue puis la spirale.
C'est ça dans les vêtements. C'est ça dans le sport. T'sais, par exemple, t'as un gars qui joue au hockey. Là, bientôt, il va te faire des demandes de patins puis de bâtons qui sont influencés par les jeunes avec qui il joue aussi. Là.
Mais ça va plus loin que ça. Puis je pense que c'est un exemple. Hein.
Ben, on avait parlé un petit peu, Denis Viraud, vous étiez pas là, je faisais la chronique avec Audrey puis Max, là. Puis ça, c'est très controversé, OK? Parce que c'est un peu à l'encontre de ce qu'on entend dans le discours public, mais ça reste que c'est statistique à la pluie, là. On a clairement augmenté le niveau de ce qu'on considère comme étant le confort minimum pour élever une famille au Québec. Parce que quand tu regardes là, les statistiques, là, parce que oui, on dit « Ah, les maisons coûtent cher, les maisons coûtent cher », factuellement, oui, c'est vrai, les maisons coûtent cher.
Ouais.
Par contre, quand tu regardes, là, des années 60 à aujourd'hui, des années 60, il y en avait du monde dans la maison. Là. Des années 60 à aujourd'hui, la superficie moyenne d'une maison là, est passée de 113 mètres carrés à 198 mètres carrés. Par contre, la taille moyenne du ménage est passée de 4,6 personnes à 2,2 personnes.
Ça prend plus grand pour moins de monde. Il ne faudrait surtout pas se croiser.
Fait qu'on a 75% plus d'espace pour 53% moins de monde.
On a-tu des cossins puis des grands-mères?
C'est pas juste ça. C'est qu'il y a pendant de grandes époques des enfants qui partageaient des chambres. Mais les deux gars dans la même chambre, c'était très, très, très commun.
Cinq?
Ouais, là, je ne vais pas jusque-là. Je parle d'une famille, mettons, moyenne normale des années 80-90. Là, maintenant, il faut qu'ils aient leur sous-sol au complet, chacun leur chambre, tout équipé.
Leur
chacun
salle de bain.
Leur
alors
salle
qu'on
de bain.
Alors qu'on ne bouge plus pantoute.
Ah ouais.
T'sais, c'est weird.
Parmi tous les pays de l'OCDE, là, le Canada, c'est le pays, on est champions. C'est nous qui avons le plus grand nombre de pièces par habitant. Fait que dans la maison, là, en moyenne, on a 2,6 pièces, alors que la moyenne, c'est 1,7. Fait que, ramène ça au sujet. Est-ce que le standard minimum de ce que ça te prend pour élever une famille est artificiellement élevé au Canada puis ça nous donne l'impression qu'on n'est pas capable de « keep up » C'est une théorie qui vaut 22 cents, là, je viens de l'établir, mais il y a peut-être de quoi, là.
Puis en même temps, ben, tu regardes ça puis tu regardes à quelle vitesse les statistiques augmentent ou diminuent puis tu te dis, ben, tu sais, les chiffres, c'est une fatalité puis on recommencera jamais à faire des flots au Québec, là.
Ben, c'est la question que... En fait, dans les années 60, là, le Québec, parce qu'on a fait un 180, là, le Québec était à un certain moment l'endroit sur la planète où on faisait le plus d'enfants. Mm. C'était toute province, tout pays confondu, on était les champions de la fécondité. Puis là, c'est rendu exactement le contraire. Ouais. On n'est pas dernier, là, on est vraiment dans le dernier tiers, assurément.
Mais c'est comme le reste. Je veux dire, on a tellement eu un déclic qui s'est fait vite entre ces grandes familles-là, puis la religion. Puis on dirait qu'on a pris un paquet d'affaires qu'on a jeté bien, bien vite aux poubelles, puis on est passé quasiment d'un extrême à l'autre.
Oui, vraiment. Puis le gouvernement essaye de trouver des solutions. Puis c'est dur, parce que quand tu le regardes de façon très froide sur papier, les conditions qu'on a, puis tu le compares... à moyenne de ce qu'il y a ailleurs dans le monde, on a des allocations familiales, on a des allocations au provincial, au fédéral. La majorité des endroits, tu vas en avoir un des deux, pas les deux. On a un congé de maternité garanti, ce qui n'existe pas aux États-Unis, ce qui n'existe pas dans la majorité des pays, à part si tu regardes les pays scandinaves. Fait qu'on a quand même des belles conditions, mais elles ne sont pas nécessaires à ce qu'on soit capable de renverser la tendance. Fait que peut-être que l'enjeu n'est pas nécessairement là. Des années 80, fin 80, début 90, Robert Bourassa avait les bébés bonus là, qui avaient été critiqués dans la mesure où c'était très... on associait la vie humaine à un chèque. Là.
Genre, t'as un deuxième bébé, t'as un bonus de tant d'argent.
Ouais, exactement.
Mais ça avait-tu marché?
Ben, je pense que mon père m'a déjà dit que j'étais un bébé bonus. Là.
Oh yes! Ouais,
moi, j'étais le troisième. c'est drôle,
ça. T'étais pas vraiment voulu, mais il y avait un chèque, c'est ça? Ouais.
Toi, t'as pas été conçu par amour. T'as été conçu pour la subvention.
Ouais, je suis un bébé Robert Bourassa.
Ma famille de finances et fiscalité.
Ben oui, écoute, ouais. C'est même
mais,
ça marche.
Mais tu sais, ça avait fonctionné temporairement. Okay. La mesure, il avait regardé le taux de fécondité avant puis après, puis ça avait fonctionné. Fait que ça, c'est l'aspect... mathématiques, mais tu as un aspect moral qui est débattable là-dessus de clairement, tu vas avoir une strate de la population qui va féconder pour les mauvaises raisons. Là.
Pour les gens qui se lancent dans l'aventure de la famille, que ce soit un enfant, deux enfants, trois enfants ou plus, c'est quoi les meilleures façons de gérer les finances quand on est à la tête d'une famille?
Ben, il y a une affaire, c'est pas des gros trucs, là, mais des affaires que je répète souvent puis que les gens savent pas. Puis quand tu regardes les statistiques, il y a pas beaucoup de gens qui le font. Fait que c'est juste des petits rappels. Là. Des fois, il y en a qui sont stressés avec le coût de l'université, études supérieures. Le régime épargne-études, là, il y a 58% des enfants qui en ont un seulement. Clairement, il y a encore de l'éducation à faire à ce niveau-là. Ouais. Ce que c'est, là, en une phrase, là, c'est vous mettez de l'argent, puis le gouvernement provincial, fédéral, il met 30% de ce que vous mettez jusqu'à un maximum. Là. Mais essentiellement, là, si tu mets 2 500 $ par année là-dedans, tu n'es pas obligé de mettre ce montant-là, mais tu es capable d'aller accumuler des grosses sommes là-dedans parce que l'argent qui traîne à terre. T'sais. L'autre affaire que les gens ne connaissent pas des fois, c'est si jamais vous faites déjà des cotisations à vos placements, vous le faites, mettons, dans un CELI, si vous prenez une partie de ça, vous le mettez dans un REER, mettons que vous avez des enfants, bien, ce qui est cool de ça, c'est que le REER, là, ce qu'il permet de faire, c'est que ça diminue ton revenu aux yeux du fisc, puis le revenu qu'il utilise pour faire ton calcul d'allocation familiale, c'est ton revenu après ta déduction REER. Fait que si tu as moins de revenus de façon artificielle aux yeux du fisc, le réflexe qu'il faut avoir, c'est « Hey, lui, il a clairement besoin de plus d'allocations. » Fait que tu augmentes ton niveau d'allocation. Fait que ça, c'est une petite twist qui peut être faite facile. Puis le truc que tout le monde sait, mais personne ne veut faire, c'est les affaires que tu peux acheter usagées. Ah, ben oui. Mais ça, c'est moins Instagram, mettons.
C'est, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a vraiment une réflexion de société à faire là-dessus, pareil, avec les chiffres à l'appui sur le fait qu'on se gonfle tous les uns les autres. Puis là, on a des maisons qui sont plus grosses que ce qu'on a besoin. C'est plus long faire le ménage dedans. On les remplit de cossins que les uns et les autres s'achètent aux anniversaires, puis à Noël. Puis il n'y a pas personne de plus heureux, là, en bout de ligne. Là. Alors que, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça augmente ton stress au niveau des finances, au niveau de l'économie, puis au niveau de tout. Puis des parents stressés, ben, ça donne des enfants qui vont l'être aussi un peu. C'est une tendance qui est dure à inverser là, dans notre monde de consommation, si on veut être philosophe un peu. Là.
Puis ça, c'est fou parce que le Canada, on parle souvent du concept de société distincte des fois que le Québec. Là.
Ouais.
Ben, quand tu regardes les statistiques canadiennes, on est le seul endroit comparable là, qui fait aussi peu d'enfants.
Ah ouais.
T'as peut-être les pays asiatiques, mais eux autres, ils ont une autre réalité complètement.
Ouais. Là, c'est weird parce que moi, j'avais l'impression que dans tous les pays industrialisés, genre les États-Unis ou des pays européens, on avait tous le même défi puis le même problème là-dessus.
Ben, en fait, beaucoup de ces pays-là ont une... Encore là, c'est un autre aspect où on fait cavalier seul, là, mais dans la majorité de ces pays-là, il y a encore une bonne présence religieuse.
Ouais.
Ce qui souvent est synonyme de « on fait des enfants » parce que c'est le modèle plus traditionnel.
Mm-hmm.
Ce qu'on a moins ici. On l'a dans l'Ouest un peu. Là. Je me rappelle quand Jean Charest voulait devenir chef du Parti conservateur, là, plus soudainement à Pâques, il se mettait à faire des pauses sur Jésus. Pis ça. Quand tu as été PM 9 ans au Québec, tu n'as jamais parlé de ça. Là.
Soudainement, Jésus est dans ta vie.
Ah, hein? Ouais. Il y a ça un petit peu au Canada anglais. Au Québec, ouais. On ne l'a pas en tout. Il y a peut-être une piste de réflexion là aussi. Mais je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est un problème fondamentalement? C'est une autre question complètement, mais je trouve intéressant de voir qu'on fait clairement cavalier seul là-dessus, mais que pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que la tendance va être inversée.
Fait que c'est les immigrants qui font en sorte qu'on est capable de ne pas se retrouver avec une pyramide d'âge complètement inversée.
Ben, 100%. Tu regardes, mettons, les taux de fécondité sur la planète. Là. Mettons, il y a une carte. Là. Si c'est rouge, il n'y a pas d'enfants. Si c'est vert, il y a des enfants. Il y a une place qui est verte sur toute la planète, c'est le continent africain.
Ouais.
C'est rien que là qu'on fait des enfants assez pour subvenir aux besoins de remplacement de population. Fait que même fin de chronique la semaine passée, là, soyons gentils avec les immigrants parce que c'est leurs enfants qui vont nous soigner dans 20 ans.
Ça ressemble à
c'est
ça.
C'est factuel.
Alex Leblond, merci beaucoup.
Merci.
Alex Leblond, planificateur financier. On fait une courte pause. On revient. Il est 17h33. On a 24 degrés sous le soleil à Québec. Gravel. Gravel.